la masculinité paye pour les actions d'une minorité d'hommes.
Quand j'avais 8-9 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je disais, je veux jouer pour les Canadiens.
Faut que tu t'arranges dans ce métier-là pour que dès que t'as fini ta job, on te dise du bien de toi.
C'est éphémère aussi, le succès, j'ai l'impression. En plus, mon but, c'est de durer.
Sans filtre. Je suis en compagnie de l'animateur comédien ex-mannequin Francisco Rendez. Merci, Francisco, d'être là. Je sais que tu étais en voyage dernièrement. Tu reviens ces jours-ci?
Ben, je repars demain
matin. Et tu repars demain matin?
Très tôt.
Tu reviens d'où et tu repars où?
Je reviens du Salvador. Je retourne au Salvador si la météo le permet demain parce qu'apparemment, il y a une grosse tempête.
Exact.
Mais on en a vu d'autres.
Oui.
Donc, d'après moi, on va être capable.
Il y a beaucoup de projets pour toi parlons du Salvador, puisque c'est ton plus récent. Tu y retournes d'ailleurs parce que depuis quelques temps, tu tournes une série télé qui s'intitule Libertad, ouais, qu'on va pouvoir voir sur le canal Évasion à la fin de l'été prochain, je pense, c'est ça?
D'après moi, oui, je pense que la fin août, il n'y a pas de date très précise, mais la période de diffusion, c'est prévu pour la fin août.
Et c'est un projet d'affaires, parce que toi, tu es entrepreneur. Tu sais, je te présente comme ex-mannequin, animateur, comédien, mais j'aurais dû rajouter entrepreneur, ouais, restaurateur. Mais là, c'est quoi, Libertad?
Libertad, c'est un projet personnel. J'ai une vision il y a 10 ans. J'ai toujours aimé l'Amérique centrale. C'est un endroit du monde que je trouve extraordinaire. Puis, j'ai toujours rêvé de passer mes hivers au chaud.
Tu m'étonnes.
Et j'adore le Québec. C'est vraiment pas un désaveu, c'est pas un manque d'amour pour le Québec. J'aime beaucoup le Québec en été. L'hiver, j'ai de la misère. Je sais que je suis pas seul. J'ai de la difficulté avec la température. Je trouve ça très difficile. Puis en vieillissant, parce que ça m'arrive à moi aussi, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai décidé de suivre cette voie-là puis de réaliser ce rêve-là. J'aime beaucoup le surf aussi. Donc, le surf au Québec, il y en a moins. Hein. On s'entend, pas des grosses vagues. Donc, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là il y a 3 ans.
Et c'est quoi comme aventure? C'est quoi exactement?
Ben, en fait, c'est un projet qui va se réaliser en plusieurs phases, mais en gros, c'est un projet à travers lequel on va offrir des vacances sportives, donc des camps de vacances pour adultes autour des arts martiaux, parce que moi, c'est ma grande passion, le jiu-jitsu brésilien surtout, et le surf et l'exploration, le yoga, le trekking, etc., etc. Donc, ça sera des semaines qui vont être assez remplies, très bien organisées. On a une belle équipe qu'on est en train de monter, qu'on a terminé de monter hier soir. Là. Je ne peux pas en dire trop, mais moi, c'est une grande nouvelle pour moi. Donc, le dernier joueur de cette équipe-là a confirmé son association avec
nous. C'est qui?
C'est un grand ami, un gars qui va s'occuper de toute la portion technologie, médias sociaux, etc. Donc, vraiment, on va offrir aux Québécois, parce que c'est un projet que j'ai pensé avant tout pour les Québécois qui aiment voyager.
Donc, c'est des voyages thématiques.
C'est des voyages thématiques. Okay. Il va en avoir plusieurs. Ça ne tourne pas uniquement autour des arts martiaux. Il va y avoir quelques thématiques.
J'avais cru que c'était un projet immobilier. J'avais lu ça quelque part.
Oui, je sais que ça a circulé et c'est normal parce que moi, cette idée-là a germé et là, tout le phrasé qui vient avec le projet est défini aujourd'hui. À l'époque, je restais un peu flou parce qu'il y avait le projet télé aussi qui se greffait à ça, dont je ne pouvais pas parler. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, je peux en parler un peu plus librement. Donc, le projet télé Libertad suit tout le développement de ce projet-là d'affaires.
Mm-hmm. Donc, tu vas faire ça où? C'est voyage thématique? C'est dans un endroit particulier?
C'est au Salvador.
Mais dans un complexe hôtelier, dans la jungle salvadorienne,
en fait,
ça va être où?
En fait, on est
sur une plage, dans des huttes?
Sur la côte de la Libertad. Ouais. Le Salvador, c'est un tout petit pays. C'est ce qui est magnifique en Amérique centrale. Ouais. C'est beau, c'est luxuriant. Il y a plein de petits pays limitrophes. Donc, le Salvador, c'est un pays qui est sur la côte pacifique. Les Salvadoriens sont des gens qui m'ont charmé par leur gentillesse, leur ardeur au travail. C'est vraiment des gens de qui j'apprends beaucoup. Je me suis fait des belles amitiés là-bas. Puis
quand tu t'appelles Francisco Rendez et que tu hablas espagnol,
oui,
ça va bien.
C'est
hein?
Sûr, je détonne un peu là-bas avec mes 6 pieds 4 et mes tatous. Quand même, je passe pas nécessairement
pour un Salvadorien.
Ils sont
moins tatoués là-bas, c'est vrai? Ils sont pas tatoués?
Oui, non, pas trop, mais en fait, les Salvadoriens, ce que moi je vis là-bas, c'est que c'est des gens qui vont comprendre et juger avec le cœur, puis quand on participe à la vie locale, puis on a vraiment une intention de s'intégrer, parce que c'est ça aussi le projet Libertad, c'est de s'intégrer à la culture salvadorienne, ben ils nous ouvrent les bras puis on reçoit beaucoup d'aide. Donc c'est ça, le but c'est de s'intégrer là-bas, de participer, de collaborer avec des salvadoriens, avec des gens locaux sur la côte pour monter ce projet-là. Donc c'est un gros projet aussi d'équipe, c'est un projet communautaire.
C'est un projet de voyage en ce moment, ça t'ennuie pas là? On n'arrête pas de parler du coronavirus puis les gens commencent à développer une grande psychose, ouais, pour tout ce qui touche l'avion, les voyages et tout. Les gens annulent leur projet de voyage, ouais, même n'importe où, là, tu sais, parce qu'à la rigueur, mm-hmm, même les gens commencent à dire peut-être que je devrais rester à la maison carrément.
Personnellement, c'est sûr que c'est un souci. Là, on part demain matin avec une équipe de tournage. On est 5. On s'en est parlé. On est une équipe formée de gens qui voyagent depuis plus d'une décennie pour des tournages en production. On a l'habitude de ça. On a vécu le SRAS. On a tous survécu. On est conscient qu'il y a des dangers, puis on comprend pourquoi la population peut être inquiétée par ça. Personnellement, on prend des mesures aussi là, au niveau de l'hygiène et tout ça, mais c'est sûr que c'est toujours un risque. Ben, ça a l'air banal, mais se laver les mains beaucoup.
Mais oui.
C'est vraiment un gros, une grosse barrière justement à la propagation des virus et bactéries. Donc là, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste, là, mais c'est ce que je dirais. Donc nous, on fait très attention, puis dans l'avion... Voilà, on essaie de se tenir à carreau. Hein? Donc, je ne sais pas, c'est pas vraiment une recette extraordinaire, mais nous, on fait attention et on court le risque, surtout.
Toi, je disais que tu parles espagnol couramment parce que tu es d'origine espagnole. Oui. Tes parents sont arrivés ici par bateau dans les années 60, oui, en 1965,
la
juste avant l'Expo.
La famille de mon père, exactement, en 65, sur le Regina. Et voilà, ma famille est partie du Pays basque. Espagnol. Ben, français, en fait. Mon père et ma tante ont grandi à Bayonne, qui est au sud de la France. Et puis, ensuite, voilà, il n'y avait pas trop d'opportunités au niveau développement d'affaires, au niveau des emplois là-bas. Donc, ma famille a décidé de venir ici, au Québec. Et ben c'est ça, c'était l'époque de l'Expo. Tout le monde parlait de Montréal à cette époque-là, donc c'était très attirant pour les gens qui voulaient une nouvelle vie. Et donc, ma famille est arrivée ici, se sont installés. Et ben chacun mon père, mon oncle et ma tante ont fait leur chemin ici. Mon oncle a été commandant de police. Ma tante a eu une entreprise ici à Montréal pendant plus de 35 ans. Donc, on a vraiment une famille qui s'est intégrée à la vie québécoise, qui a participé à la vie économique québécoise. Donc, on en est fiers aussi. Ça fait partie un peu de mon histoire. Puis moi, aujourd'hui, ben, je fais un peu la même chose ailleurs.
Mm-hmm. Et tu te sens comment là-dedans? Tu te sens québécois, espagnol, hispanophone, globe-trotter?
Je me sens québécois. Je me sens québécois dans mon cœur. Mes racines espagnoles sont fortes aussi. J'ai des contacts avec ma famille là-bas. Je suis allé les visiter dans le cadre d'une série Évasion. Mm-hmm. C'est pour connaître mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles. C'est des racines que je sens très fortes en moi, qui sont bien, bien profondes. Puis je me sens comme un citoyen du monde. Je trouve ça important de... Ouais, c'est ça, il y a une globalisation, il y a un bon côté à la globalisation, donc voilà.
On va aller à la pause, mais on revient tout de suite après.
Yes.
Mon invité, Francisco Randez. Francisco, qui, l'été dernier, a vécu une grande remise en question.
Oui, effectivement. Disons que cet événement-là est arrivé dans le cadre de grandes réflexions. Là, je pense que c'est peut-être le passage à la quarantaine qui a amené ce genre de réflexion-là. Puis un genre de bilan qui... j'ai vécu beaucoup de choses entre 20 et 40. Ça a été rock and roll. On pourrait en parler longtemps, mais grosso modo, ben, c'est beaucoup d'opportunités, beaucoup d'émotions très fortes à travers la mode, à travers la télévision, à travers le monde des bars. Puis éventuellement, ben, je me demandais ce que j'allais faire de la deuxième partie de ma vie. Là, statistiquement, j'étais rendu au milieu, là, à peu près. Et ben voilà, ces questions-là ont surgi, puis ça a amené un bilan qui a pris quand même 2-3 ans à faire. Et rencontre avec ma copine Ariane, avec qui on est toujours, puis ça va très bien. Rencontre assez rapide. Elle était expatriée. Elle habitait au Salvador depuis 4 ans. Elle était de passage à Montréal. On s'est rencontrés dans le cadre de Cheaga. Elle repartait très, très prochainement. Puis là, ben, on est tombé amoureux, puis on était devant un choix. Est-ce qu'on continue cette relation-là? Les relations à distance, c'est jamais facile. Puis quand t'en as vécu 2-3, je pense que moi, en tout cas, ça me tentait plus.
Mm-hmm.
Et j'ai décidé de la suivre. J'ai décidé de la suivre parce que le Salvador était sur ma liste de pays que je voulais explorer pour mon projet. Là, j'ai décidé que les astres s'étaient alignés.
Écoute, c'est bien fait quand même.
C'est bien fait, la vie, pareil. Donc voilà.
T'aurais pu rencontrer une Japonaise.
Oui, aussi.
Ça aurait été un problème.
Ben, ou pas.
Ou pas.
Mais disons que Le Salvador, c'était plus proche.
Voilà,
c'est
ça.
Et c'était dans, et vraiment dans l'environnement que j'avais ciblé pour mon projet. Donc, j'ai décidé de la suivre. Je suis parti 6 mois. Puis c'est un 6 mois dont j'avais besoin personnellement pour faire un bilan, comme je disais, puis faire le point sur ma vie. Puis les choses se sont enchaînées assez rapidement et ça a été un 6 mois très rocambolesque où moi, je me suis retrouvé à l'hôpital blessé, j'ai failli perdre un pied. Là, ça a vraiment été rock'n'roll. Puis
on
était
un peu.
Ben, j'ai eu un accident de surf qui a nécessité 24 points de suture, puis là, ça s'est infecté. Puis bon, j'étais dans la jungle, en Équateur, puis là, je me disais, je reviendrai peut-être pas de pied. Donc, ça a été un peu intense. Puis. Mm-hmm. Et puis ce passage-là, bon, il y avait aussi des grands changements dans sa vie à elle. Donc, on est arrivé à un point où, à l'été où on se demandait un peu où on s'en allait avec ce projet-là. Puis on était en processus de rupture et c'est là que Ariane est retournée au Salvador et c'est là qu'elle a commencé à avoir des symptômes assez importants.
De cancer.
Oui, c'est ça. On ne savait pas que c'était ça au début. Et quand elle est revenue, elle a pris un rendez-vous pendant qu'elle était au Salvador. Le lendemain, elle a passé une échographie. Puis le jour même, sa gynécologue l'a appelée pour lui dire d'aller à l'urgence immédiatement. Donc, j'ai accompagné Ariane à l'urgence et on ne s'est jamais lâché à partir de ce moment-là. Puis là, on a compris la gravité de sa condition. Puis c'est pas une question qu'on s'est vraiment posée. Je pense que l'urgence de la situation a fait qu'on s'est fédéré autour de ce projet-là de l'accompagner dans ses premières phases-là, parce que c'est toujours bien stressant. Là, c'est un rendez-vous après l'autre. Et puis après.
Elle a le cancer des ovaires.
Elle a été opérée. L'opération a été un succès. Et là, Ariane est en fin de traitement de chimiothérapie. Elle a eu son 5e traitement lundi matin, lundi dans la journée. Et puis là, il en reste un le 16 mars prochain. Et après ça, il y a le traitement d'immunothérapie qui va continuer pour un autre 24 mois. Parce que l'immunothérapie et la chimio se font
simultanément. On en parlait justement avec Richard Béliveau tout à l'heure. Il disait que l'immunothérapie était vraiment... c'est un grand espoir. Ça représente beaucoup d'espoir, en particulier aussi pour ce cancer des ovaires.
Exactement. Ouais. Et c'est très prometteur, l'immunothérapie. Ça a déjà démontré des grands bienfaits. Et puis, Ariane, dans sa malchance, elle est chanceuse parce qu'au CHUM, elle est traitée par l'équipe de Diane Provencher et Nathalie Mesmasson, qui sont extraordinaires. Et l'équipe qu'elles ont formée, c'est vraiment extraordinaire. Ça m'émeut à chaque fois qu'on y va, l'humanité des traitements, les soins qu'elle reçoit, c'est vraiment extraordinaire. Donc, à travers tout ça aussi, Ariane a la chance de bien répondre à la chimio, parce que la chimio, c'est pas tout le monde qui répond bien. Ariane répond très bien, on a eu des bonnes nouvelles la semaine passée. Donc, on n'est pas sorti du bois, c'est un processus de 5 ans. Mais on a bon espoir, puis tout ce qui vient autour aussi, le mode de vie, on essaie de soutenir Ariane dans ce mode de vie-là pour que elle soit le mieux possible au quotidien. Mais je dois dire, je l'admire beaucoup parce qu'elle est très courageuse. Ariane ne s'est pas plaint une fois dans ce processus-là, mais pas une fois. Et je suis très admiratif. Et je pense, j'ai compris à travers ça que l'admiration, c'est aussi...
Un peu d'amour.
C'est de l'amour. C'est ça qui va créer... En tout cas, dans mon cas, c'est ça qui est en train de créer cette relation-là que je trouve très forte, que je n'aurais jamais imaginée. J'aurais jamais imaginé cette relation-là. Si on m'avait dit un an et demi que j'allais vivre ça, je ne l'aurais pas cru. Mais et ça change une vie
c'est
aussi.
Vous étiez en phase de séparation quand vous avez appris la nouvelle. Donc, d'une certaine façon, ça vous a ressoudé aussi.
Bien, c'est carrément, je pense, une nouvelle relation. Puis je pense que de part et d'autre, on a décidé de vivre cette situation-là pleinement puis de se lancer dans cette aventure, si on veut. Puis je pense que c'est un peu comme ça qu'on l'a abordé. On est deux aventuriers, puis on a abordé ça comme une aventure. Mais à travers ça, il y a un lien qui s'est soudé qui est très, très fort. Puis c'est pour quelque chose que j'ai vécu à date. Donc, je trouve ça très beau. Puis ça a demandé, par contre, beaucoup d'ajustements. Puis des grandes... Tu sais, ces remises en question-là dans lesquelles j'étais, bien là, ont été accélérées. Là, il y a des décisions qui ont été prises rapidement. Il y a des deuils qui ont été faits. Bien, au niveau du mode de vie, tu sais, j'étais un gars quand même qui avait une vie sociale très remplie en événements, bon, en télévision, etc., avec les restaurants. J'étais toujours
dans
propriétaire de restaurant. Mes partenaires en affaires, là, ça fait maintenant 6 ans qu'on est ensemble, ont été hyper compréhensifs. Puis on s'est ajusté, donc je suis plus du tout un gars sorteux. Puis c'est peut-être temporaire, peut-être que je vais le redevenir, mais je sais pas, on dirait qu'on a pris goût à cette vie-là plus calme, avec
une
routine
au quotidien.
Mais
toi, écoute, t'as beaucoup donné, tu le disais, entre 20 et 40.
J'ai vraiment donné.
Comme mannequin sur les grandes catwalks un peu partout international, t'as été la muse de tellement de grands designers et couturiers.
Un
en particulier, surtout quand même.
Mais ouais, j'ai donné, comme tu dis Isabelle, j'ai fait mon bout. Hein, donc, je pense que je peux passer à un autre appel.
Nomme-le donc, parce que tout le monde le connaît. Là.
Jean-Paul Gaultier.
Oui, voilà.
Oui, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Paul Gaultier, qui est un être extraordinaire de qui j'ai appris beaucoup. C'est vraiment une personne spéciale. C'est un humain, c'est un être d'une grande humanité. C'est vraiment une personne d'une grande gentillesse, d'une humilité. C'est quelqu'un de moi qui m'a beaucoup marqué.
C'est quelque chose, quand même. Mm-hmm. Puis là, donc, tu sortais beaucoup... beaucoup d'alcool et autres substances.
Ben oui, c'est tous les excès, tu sais, puis je le comprends aujourd'hui, tu sais, je pense qu'on cherche quelque chose, les humains, on cherche, on veut accéder à plus d'énergie tout le temps.
Mais je veux dire, la vida, tu l'as vu, tu l'as vécu, hein, cette espèce de vie folle.
C'était la vida loca, là, comme dirait l'autre.
Ouais, mais,
Non, je m'ennuie pas de ça, bien honnêtement, je m'ennuie pas de ça du tout.
Et tu disais, il y a aussi des deuils.
Ben, il y a des deuils. Ben, c'est des deuils de on se bâtit une image autour des sphères du couple, puis de nos sphères d'activité, des milieux dans lesquels on évolue, puis on bâtit une espèce de personnage, hein, qui fit, si vous permettez mon anglais, qui fit très bien là-dedans. Puis éventuellement, il faut faire le deuil de cette personne-là, cette personnalité qu'on avait bâtie. Il faut la déconstruire, puis il y a des morceaux qu'on garde, puis on se reconstruit après pour vivre autre chose. Sinon, c'est comme un peu le jour de la marmotte. Puis moi, c'est de ça dont j'étais tanné. J'avais l'impression que chaque jour, ça avait l'air bien extraordinaire de l'extérieur, mais moi, j'étais tanné. Vraiment. Donc, voilà.
Je pensais que tu allais me parler d'enfants.
Des enfants?
Oui. Quand on a le cancer puis qu'on a des traitements comme ça, on n'a pas forcément d'enfants. On peut adopter, on peut faire beaucoup de choses. On peut ne pas en avoir aussi, là. Ben, est-ce que ça fait partie des deuils que tu avais à faire?
Moi, j'avais décidé de ne pas avoir d'enfants. C'est une question que je m'étais posée avec mon ex-copine Evelyne, qui voulait vraiment des enfants.
Toi, tu avais déjà réglé ça?
Oui, aujourd'hui, Evelyne est maman, puis elle est très heureuse, puis on a un beau contact ensemble, on s'écrit régulièrement.
Est-ce que tu l'avais quitté parce que tu ne voulais pas d'enfants, puis qu'elle en voulait?
C'est une autre histoire, puis je vais peut-être je vais pas rentrer là-dedans, mais ça serait une longue histoire. Mais je pense que ça a été un grand point de réflexion. Et moi, j'ai réalisé, j'aime beaucoup les enfants. J'ai été moniteur de camp de vacances. J'ai mes neveux dont je suis fou amoureux. Mm-hmm. J'essaie de passer le plus de temps avec eux. Par contre, je voulais pas être papa. J'ai un profond respect, une profonde admiration pour les gens qui embrassent la vie de parent. Je parlais de mon cousin, et mon cousin qui est comme mon frère, puis ses enfants, c'est mes neveux. Ben, Daniel et Marie, ben, je les trouve beaux. Puis cette famille-là, je les trouve donc bien extraordinaires. Ma petite sœur a un enfant, ma grande sœur, et je les trouve tous beaux. Mais moi, je n'étais pas prêt à être papa.
Mais je trouve que c'est bien de le savoir.
Mais c'est ça la différence. Pas parce qu'on veut pas être papa qu'on aime pas les enfants.
Exact, exact. Ouais, on a le droit de pas en vouloir aussi. C'est tout à fait correct. Merci beaucoup,
merci,
Francisco.
Quoi,
t'es formidable. On va regarder ta série.
Toi, t'es formidable aussi.
Oh, écoute, à pomper l'air un petit peu aujourd'hui, mais ça va bien se passer. À demain, tout le monde. Merci beaucoup encore.
Merci.